BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans 60 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée avec Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Au sommaire de ce vendredi 18 novembre, l'alerte de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, qui estime aujourd'hui qu'il existe un risque élevé de tension sur le réseau électrique français en raison de l'état des réacteurs nucléaires. On va en parler dans les détails dans un instant avec Mathieu Pechberti. Dans notre focus, on reviendra sur les conséquences de la chute de l'empire FTX. La plateforme était pourtant particulièrement bien noté encore quelques jours avant son effondrement. Est-ce que c'est tout l'univers crypto qui est menacé? On posera la question à Raphaël Bloch dans notre focus. Et puis à l'occasion des 24 heures du bâtiment Porte de Versailles à Paris, journée spéciale sur BFM Business, nous recevons Mathieu Burin, passionné de rénovation depuis toujours. Il a créé sa propre plateforme pour les particuliers, EMEA. Il sera avec nous dans une dizaine de minutes. Et puis à 12h30, on va vous rejoindre, Lorraine Goumeau, pour BFM avec vous.
Mais on parlera un petit peu aussi recrutement. On aura un recruteur dans le secteur du bâti, mais on parlera aussi et surtout de la responsabilité pénale des dirigeants, des dirigeantes, notamment dans les situations de harcèlement moral et sexuel, mais aussi, vous le verrez avec notre chronique du vendredi LinkedIn sur les enjeux autour de l'environnement.
Rendez-vous dans moins d'une demi-heure maintenant. Merci Lorraine. Allez tout de suite, c'est le journal. Et l'hiver s'annonce moins calme que prévu. RTE estime qu'il existe un risque élevé de tension sur le réseau électrique français pour le mois de janvier. Vous avez suivi le dernier brief d'RTE il y a quelques minutes, Mathieu Pechberti.
Oui, l'alerte est cette fois-ci bien sérieuse. Alors, on avait vu depuis quelques semaines qu'il y avait beaucoup de retards de réacteurs. Cette fois-ci, on y est. Le mois de janvier s'avère déjà mal parti. RTE avait un objectif d'avoir, on va dire, trois quarts des réacteurs en fonctionnement en janvier. Il a abaissé cet objectif à deux tiers. On risque de manquer environ entre 4 et 5 gigawatts. Donc, en gros, entre 4 et 5 réacteurs nucléaires en janvier. Donc, ça veut dire un risque accru de délestage. Je vous rappelle, les délestages, c'est des coupures, certes localisées, mais de 2 heures pendant une journée, s'il manque effectivement des moyens de production. Et on voit bien que pendant cette conférence, RTE a commencé à préparer les esprits, à expliquer comment allaient se passer ces délestages, qui ne seraient pas évidemment sur tout le territoire, mais localisés. Qu'il serait rotatif d'une région à une autre pour pas qu'une région soit, on va dire, lésée en particulier. Mais effectivement, ce risque de délestage est de plus en plus élevé et ce sera dès le début du mois de janvier.
Ça dépend aussi du facteur temps, mais ça, effectivement, on ne peut pas le savoir.
Absolument.
Plusieurs causes à cela, Mathieu, à ce risque plus élevé en janvier.
Oui, alors il y a un risque, on va dire, habituel, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de réacteurs qui étaient en maintenance et les maintenances, en général, quand EDF prévoit d'en faire sur 3 ou 4 semaines, ça dure toujours plus longtemps que prévu, ça a toujours été comme ça, les centrales nucléaires sont des objets industriels extrêmement lourds, donc les calendriers sont par définition durs à tenir. Et puis il y a eu aussi au mois d'octobre les mouvements sociaux de revendications salariales dans plusieurs réacteurs qui ont décalé de 2 semaines le démarrage de certains réacteurs. 2 semaines, c'est pas non plus énorme, donc c'est pas ça le gros problème, c'est avant tout les problèmes de maintenance. Et puis il y a, faut pas oublier, également des réacteurs qui sont arrêtés pour des travaux de réparation, de soudure, pour les problèmes de corrosion, on en a souvent parlé. Il y en a une quinzaine qui sont encore à l'arrêt pour ces raisons-là. Et donc ça aussi, ça s'ajoute à l'explication et au fait qu'on risque fortement maintenant de manquer de réacteurs cet hiver. Encore une fois, l'alerte est très sérieuse pour le mois de janvier.
Merci beaucoup Mathieu. Jean-Marc, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous allez me parler de pulls.
Et oui, je crois qu'il va falloir qu'on achète des pulls. C'est ce qu'a recommandé d'ailleurs Jevons quand il parlait de l'épuisement possible des réserves de charbon. Il disait, je préviens mes contemporains, qu'il va falloir acheter des pulls et qu'il va falloir développer les élevages de moutons pour fabriquer les pulls en question. Non, ce qui me frappe quand même, c'est le fait que c'est plus l'Ukraine, c'est plus le gaz, c'est plus Poutine, c'est vraiment là l'incompétence interne. Et donc, c'est assez inquiétant parce qu'on peut penser que Poutine, ça va s'arrêter. L'incompétence interne, ça demande quand même une réflexion de fond et une analyse de vraiment pourquoi on en est arrivé là. Et puis alors, sur la nature, les météorologues nous annoncent que l'hiver va être froid. C'était assez frappant. C'est d'ailleurs ce qu'ils sont capables de prévoir la température du mois de janvier 2100, mais pas celle du mois de janvier qui vient. Donc, il y a toujours un grand mystère dans ces histoires de climat et de météorologie. Mais derrière tout ça, il y a une bonne nouvelle. Il paraît que la pluie qui vient est en train de remplir les barrages dans des proportions qu'on n'avait pas
soupçonnées. Ah bah voilà.
C'est vrai, c'est la seule bonne nouvelle annoncée. Absolument.
Et donc, le niveau des c'est quand même la nature. La nature est au rendez-vous.
Ce sera la bonne nouvelle de lundi matin et notre baromètre avec vous, Mathieu. Merci beaucoup d'être venu dans ce journal également. Patronat et syndicats en Allemagne qui ont annoncé cette nuit un accord sur des hausses de salaire de 8,5% au total pour plus de près de 4 millions de salariés. De l'électro-métallurgie, accord qui prévoit que cette hausse interviendra en deux temps, en 2023, en 2024. Accord qui écarte aussi tout risque de grève en Allemagne. Jean-Marc, en France, on est en plein dans les NAO, ça va commencer. C'est en ce moment. Jusqu'ici, les patrons avaient évité ce genre d'accord sur les hausses de salaire.
Oui, ce qui me frappe dans ce dossier, c'est d'abord le fait que maintenant, les négociations salariales sont déconcentrées. Donc, il y a beaucoup de situations qui sont des situations très contradictoires. Mmh. Et alors que dans les années 60-70, il y avait une grande négociation, les Grenelles, dont se réunissaient. Celui de mai 68 avait été particulièrement important. Et la deuxième chose, c'est qu'en Allemagne, il y avait une sorte de tradition qui consistait à dire, quand vous faites des négociations salariales, si vous obtenez ou si vous réclamez des hausses trop importantes, il va y avoir de l'inflation. Et s'il y a de l'inflation, la Bundesbank va réagir. Mmh. Et donc, c'était une espèce de jeu où on faisait l'arbitrage entre ce que voulaient les salariés et la menace de l'action potentielle de la Bundesbank. Sauf que la Bundesbank n'est pas là. Mmh. Et donc, je crois que ça va relancer en Allemagne le procès de la BCE, de l'euro, de la politique monétaire. Je crois que là, il y a aussi un dossier qui est un dossier avec des conséquences qu'on ne voit pas immédiatement, mais qui peuvent être assez lourdes.
On y reviendra, évidemment. Et puis, cette journée spéciale bâtiment sur BFM Business, aujourd'hui, à l'occasion des 24 heures du bâtiment Porte de Versailles à Paris. On vous en parlait hier, les chiffres des promoteurs immobiliers ne sont pas bons du tout. Les ventes s'effondrent au troisième trimestre. Elles ont baissé au global de près de 30% sur un an. La pire dégringolade se trouve du côté de ce qu'on appelle les ventes en bloc, les ventes aux institutionnels et aux bailleurs sociaux. Olivier Salleron, le président de la Fédération française du bâtiment, était ce matin l'invité de Good Morning Business. Il va falloir faire preuve de patience, on l'écoute.
Vous savez, l'alerte de nos promoteurs, nous, on le subit un an, deux ans, trois ans après.
Ouais.
Donc là, on sait ce qui va nous arriver déjà. Malheureusement, je le dis, pendant six mois l'année prochaine, nos adhérents vont devoir non seulement ajuster la voilure, mais peut-être la réduire. Et là, le danger, il est là. Parce que c'est des défaillances d'entreprise, et donc, c'est des licenciements.
Voilà, et le secteur ira mieux grâce à la rénovation énergétique notamment. On va en parler dans un instant avec notre invité Mathieu Burin, qui est fondateur d'EMEA, qui travaille beaucoup avec les particuliers sur la rénovation énergétique. Justement, ce sera dans 5 minutes. Allez, c'est l'heure de notre focus. L'effondrement de la plateforme FTX, l'empire de Sam Bankman-Fried, crée des remous. Évidemment, le monde des cryptos va-t-il s'en remettre? C'est la question qu'on vous pose. Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale, le média du Web 3. Concrètement, le Bitcoin est autour des 16 000 dollars en deux. La capitalisation mondiale des cryptos a chuté de 240 milliards. Qu'est-ce qu'on attend pour les mois qui viennent? Quelle est votre perspective, votre vision, Raphaël?
Bonjour, oui, alors je n'ai pas de boule de cristal pour être honnête avec vous. Maintenant, effectivement, c'est une période très, très compliquée pour l'industrie crypto au sens large, parce qu'effectivement FTX était, maintenant on en parle au passé, l'un des acteurs les plus connus. C'était une plateforme à l'échelle mondiale avec plusieurs millions de clients. Donc maintenant, évidemment, créer une crise de confiance sur cette classe d'actifs. Maintenant, et nous, c'est ce sur quoi on insiste du côté de The Big Whale, et en parlant avec les spécialistes du secteur, c'est que là, ça ne concerne qu'un acteur, un intermédiaire en fait sur les marchés crypto, ce que FTX permettait d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Ça ne touche pas directement l'industrie des cryptos, qui a évidemment pâti ces derniers jours d'une certaine perte de confiance, et donc les marchés ont baissé, mais ça n'est absolument pas dans les mêmes proportions que ce qui a pu être vu sur certains projets qui étaient très proches de l'écosystème de SBF, donc Sam Bankman-Fried. Voilà.
Cet épisode, du coup, on peut dire, va prolonger l'hiver des cryptos, qu'on connaît depuis quelques mois, mais ça peut pas aller plus loin, faire s'effondrer le secteur carrément.
Ouais. Alors, il est évident aujourd'hui que la chute de FTX, vu sa dimension systémique dans l'écosystème, va avoir un impact sur d'autres entreprises du secteur. On l'a vu ces derniers jours. Entreprises aux États-Unis ont commencé à geler leurs activités parce qu'elles ne sont plus en mesure d'opérer les retraits pour leurs clients. Ça touche aussi des entreprises en Europe. Donc, ça va avoir un impact qui va bien au-delà de FTX. Maintenant, ça ne concerne qu'une partie de l'industrie, à savoir celle des exchanges, donc des plateformes de crypto-monnaies et de certaines entreprises, notamment des sociétés de prêts en crypto-monnaies qui sont touchées. Mais vous avez, j'allais dire, tout le reste de l'industrie, je pense notamment aux NFT ou aux protocoles, hein, les blockchains qui continuent de se développer, alors qu'ils sont touchés. Parce qu'encore une fois, il y a une crise de confiance, ça va durer encore quelques mois. On était déjà dans une situation où les marchés n'étaient pas très hauts. Donc ça va durer. Maintenant, les fondamentaux sont toujours là.
Oui, c'est ça, Jean-Marc Daniel. Je sens que vous allez dire que je vous avais prévenu, je sens que vous allez me le dire. Mais quoi qu'il arrive, c'est bien ça quand même le problème, c'est la crise de confiance.
Oui, il y a une crise de confiance et puis objectivement, il y a des gens qui ont perdu de l'argent et ces gens-là, on ne les reverra plus. Ne serait-ce que, non seulement ils sont méfiants, mais ils n'ont plus les moyens de revenir sur ce genre de marché. Et je pense qu'il y a, dans cette affaire, il y a un manque d'informations qui a été donné. Il y a eu un emballement, un enthousiasme.
Elle était très bien notée, cette plateforme. Attention, absolument. Quelques jours encore avant son effondrement.
Absolument. Il y a eu un manque d'informations sur les risques que l'on prenait, sur la réalité de ce qui se passait. Et même, il y avait une sorte de fascination parce qu'on comprenait rien. Et donc, une fascination technologique qui faisait que, à la fin des fins, il fallait qu'on y aille, sinon on paraissait totalement ringard. Donc, je crois que maintenant, il va falloir que la sagesse revienne. Je cite toujours la formule de Newton. Je suis capable de calculer le mouvement des planètes, mais je ne peux pas mesurer ni la naïveté des uns, ni la malhonnêteté des autres. Mmh. Et c'était, il disait ça après cette affaire dans le crack de la compagnie des mers du Sud. Donc il y a des gens qui se sont fait rincer. J'invite tous les autres à regarder de très près ce qu'ils font sur un sujet qui ne va pas disparaître pour autant.
On va y revenir bien sûr dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Raphaël Bloch de votre témoignage, votre expertise sur ce sujet, cofondateur de The Big Whale. Allez, tout de suite, c'est l'heure de l'édito de Jean-Marc.
BFM Business, 60 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Jean-Marc, vous allez nous parler de conquête spatiale, mais indienne.
Exactement, oui. Vous avez vu qu'on a beaucoup parlé, le G20, la COP, tout ça, on a beaucoup parlé de tout un tas de pays. Il y a un pays dont on parle très peu, relativement peu, c'est l'Inde. Et l'Inde vient de connaître un nouveau succès avec le lancement réussi d'une fusée, en plus par une société qui est une société privée. Et donc, l'Inde confirme à la fois son dynamisme économique et la pertinence de son choix économique.
Discrètement.
L'Inde qui va être le pays qui aura, à part les pays pétroliers et les pays producteurs de matières premières, qui aura le plus fort taux de croissance cette année. L'Inde dont le FMI annonce une amélioration de la situation alors qu'il annonce une dégradation de la situation de la plupart des autres pays, avec un taux de croissance qui soit aux alentours de 6%. Et l'Inde dont le PIB a dépassé celui du Royaume-Uni au cours de l'été, et ça va se continuer puisqu'avec 6% de croissance et la récession au Royaume-Uni, l'écart va continuer à s'accroître. Alors, quand on regarde le succès de l'Inde, je pense qu'il y a deux éléments qui jouent. Le choix clair et net du secteur privé. L'Inde est en train de privatiser ses chemins de fer, de privatiser sa compagnie aérienne, de privatiser sa conquête de l'espace. Et le Premier ministre, M. Modi, a clairement annoncé que c'était un mouvement de fond et que, y compris dans le secteur de l'agriculture, on allait accentuer l'appel et le recours au privé. Et puis le deuxième, c'est que l'Inde, c'est l'innovation. Bangalore, l'informatique, les meilleurs mathématiciens. Quand on regarde les gens qui sont licenciés de chez Twitter par Elon Musk, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'Indiens. Oui. Parce que l'Inde est en train de produire les ingénieurs de la planète.
Est-ce que c'est une prise de conscience qui date aussi de la pandémie ?
Alors, je pense qu'il y a eu une prise de conscience de la pandémie au travers, d'une part, des inquiétudes, des incertitudes sur ce qui se passait en Chine, qui était le pays de référence. Et ça a été aussi une prise de conscience qui est liée au fait que l'Inde a montré une rapidité de réaction, une capacité de réaction qui paraissait insoupçonnée, insoupçonnable dans un pays dont on dit que c'est en permanence un grand capharnaüm, un désordre. On voit toujours les gens qui sont sur le toit, justement, des wagons de chemin de fer, les embouteillages monstres qu'il y a.
C'est l'image qu'on veut en garder.
Voilà. Et il y a derrière une dynamique. Et donc, si j'ai un conseil à donner à tous les investisseurs qui envisagent de quitter la Chine, c'est pas la peine de fantasmer sur le Cantal, mais plutôt sur Mumbai.
Merci beaucoup, Jean-Marc. Allez, on fait un point à Euronext tout de suite. Avec un CAC 40 en grande forme pour terminer la semaine, Antoine Larry-Gaudry.
Oui, qui a même monté comme une fusée là, ces 10 dernières minutes. Un CAC 40 qui est même allé jusqu'à 6667 points. Alors j'ai cru qu'on allait faire un 6666 parfait, un jour de trois sorcières. Ce qui aurait été un événement assez amusant. Mais en fait, non. On a tapé 6667 et on est revenu à 6664 juste après. Donc là, on redescend à 6649. On est quand même sur une belle hausse. Hein, plus 1,12%, plus 1,27% pour l'Eurostock. Stoxx 50, le DAX à Francfort, plus 1,06, 3 sorcières, sont évidemment les trois types de contrats et d'options qui tombent à échéance aujourd'hui. C'est l'avant-dernier vendredi du mois, c'est traditionnel, et donc ça permet aux investisseurs de prendre des paris pour les semaines à venir, et là, ils sont quand même bien optimistes, parce que ça pousse le CAC 40 vers de nouvelles hauteurs et assez proche de nos derniers plus hauts. À la faveur alors d'un sentiment de rebond général et d'amélioration de la tendance, puisqu'on sort quand même de deux jours de baisse consécutive, et puis d'une certaine forme d'équilibre du point de vue des taux, c'est-à-dire qu'on a eu une correction très très forte toute la semaine et là un rebond assez net du fait des propos de Christine Lagarde ce matin qui a dit qu'un ralentissement économique voire une récession ne serait pas suffisant pour calmer la tendance du point de vue de l'inflation. Donc les hausses de taux allaient continuer. Le 10 ans français donc remonte à 2,53, 2,06 pour le 10 ans allemand. Les plus fortes hausses du jour, Téléperformance poursuit son redressement à plus 3,8%, 224,90€. AXA plus 2,1 à 27,19€. Schneider Electric plus 2,10 à 141,30€. Les plus fortes baisses, Alstom moins 2,34, 24,19€. Unibail, Rodamco, Westfield moins 1,9 à 51,14€. Et Thales moins 1,8 à 115,30€. Le CAC donc plus 1,16, 6652 points. Du côté de l'euro-dollar, on est toujours sous 1,04 à 1,0377.
Est-ce que cet optimisme touche aussi les cryptos, Antoine ?
C'est encore très très laborieux. Hein. Vous avez entendu tout le oui. sentiment pessimiste autour de ce qui peut se passer dans les prochaines semaines. Et c'est vrai que du coup, il y a la volonté de rebondir un petit peu, notamment sur le Bitcoin et l'Ether. Mais elle est complètement capée. On est à 16 700 pour le Bitcoin et l'Ether. 1 218 $.
Merci beaucoup Antoine Larry-Gaudry. Allez rester avec nous dans un instant. Notre invité sera Mathieu Burin, le fondateur d'EMEA. C'est la journée spéciale bâtiment aujourd'hui sur BFM Business à l'occasion des 24 heures du bâtiment Porte de Versailles à Paris. On va parler rénovation de vos logements, rénovation énergétique aussi. Restez avec nous.
BFM Business, 60 minutes business, l'invité.
On le rappelle, journée spéciale sur BFM Business à l'occasion des 24 heures du bâtiment aujourd'hui. On va parler rénovation avec vous, Mathieu Burin. Vous êtes fondateur d'EMEA. Merci d'être avec nous.
Merci.
Dans 60 minutes business, studio d'architecture, de rénovation pour les particuliers qui se chargent vraiment de A à Z, de gérer les travaux des personnes qui veulent un petit peu changer leur intérieur. Vous avez créé EMEA en 2015. Bon, on imagine qu'avec le Covid, dans un premier temps, qui nous a fait regarder très près notre logement, puis avec l'adoption de la loi climat et résilience qui nous a fait regarder la protection du climat en plus, votre activité a explosé. Comment fonctionne EMEA tout d'abord?
Alors, donc EMEA, donc c'est un studio d'architecture et de rénovation. Donc on accompagne les particuliers de A à Z. Donc on les prend par la main avec la phase architecture, donc plan 2D, plan 3D, sélection des matériaux. On fait une consultation d'entreprise. Donc on va consulter des entreprises de notre réseau qui sont notées, on pourra y revenir. On a tout un système de certification.
Oui.
On a tout le process de signature, de commercialisation, de contractualisation qui est en ligne. Et après, on accompagne jusqu'à la parfaite réalisation du projet. Donc on a aussi une phase qu'on appelle travaux planeur pour accompagner le chantier. Et donc c'est vraiment, je simplifie de A à Z, j'accompagne et j'ai toute une brique de gestion de projet qui est gérée et opérée par EMEA.
Bon, vous êtes passionné de rénovation depuis le départ, hein. Ça fait très très.
Ah, moi je suis ingénieur de travaux de formation.
Oui, c'est ça.
Moi j'ai fait mes armes, c'est Bouygues Construction.
Dès le départ.
Et la petite histoire, c'est que je voulais monter depuis que je suis gamin ma boîte de rénovation, donc je suis dedans. Et en fait, le constat, c'est aujourd'hui quand on regarde les travaux, il y a un gros niveau d'insatisfaction en termes de qualité, en termes de délai. Et en même temps, c'est un des métiers les moins digitalisés au monde. Mm. Et donc nous, on s'est dit, OK, comment on est capable de prendre le meilleur des deux mondes pour l'amener sur une plateforme qui permet vraiment d'accompagner, de simplifier et de faire que les travaux, ça devient enfin réjouissant. Nous, on a un taux de satisfaction qui entre 96 et 97%, là où le marché, il est à 50%.
Jean-Marc.
Vous êtes combien à l'heure actuelle ?
Alors maintenant, on est une grosse 80-90 talents chez EMEA en interne. Et après, on a aussi tout un tas de prestataires, puisqu'on bosse avec 300 ou 400 entrepreneurs dans les différentes villes.
Et vous rencontrez vos clients par quel biais? Vous faites des campagnes de pub?
Alors, il y a plein de choses.
Vous allez voir les syndics ou...
Alors, on a déjà une marque qui fait qu'on veut être très pédagogue. Donc, si vous allez sur EMEA, vous allez trouver. Donc, EMEA, c'est H-E-M-E-A. Mm-hmm. Et vous allez trouver plein de contenus pédagogiques sur comment je fais ma rénovation, c'est quoi l'ordre, c'est quoi les budgets, comment je m'inspire. Il y a plein de photos, de déco de tous les côtés. Donc, ça, c'est un des premiers leviers. Le deuxième levier, c'est qu'on fait notamment de la pub en métro. Donc, par exemple, l'année dernière, on était un mois dans le métro en octobre-novembre, à la même période, avec Schneider Electric. Donc on est capable de proposer une offre d'accompagnement de A à Z et on s'allie aussi avec des super industriels pour nous accompagner.
3000 projets réalisés, on va revenir là-dessus évidemment, mais 3000 projets réalisés à ce jour, vous travaillez avec les particuliers. Est-ce que vous prenez en main aussi les demandes d'aide,
ce genre de choses?
Parce que c'est grâce à ça aussi qu'on aboutit à un projet de rénovation.
C'est du sur-mesure, donc on prend vraiment le client par la main sur ce qu'il a besoin. Donc on a, ce que je disais tout à l'heure, des plans 2D, plans 3D. S'il y a besoin d'un bureau d'études, on fait intervenir un bureau d'études. S'il y a des sujets légaux sur, par exemple, je veux changer mes fenêtres ou je veux faire une extension, on a des archis qui sont capables de répondre à ça, encore une fois en interne. Et après, c'est en fonction du projet, de la spécificité, on trouve la bonne entreprise. Donc là, pour le coup, on travaille avec des entrepreneurs et après, on suit le chantier, encore une fois, on suit le chantier en interne. Donc on maîtrise tout de A à Z et après on a un réseau. Il faut vraiment nous voir comme un architecte. Un architecte, il a son réseau d'entrepreneurs de qualité parce qu'il travaille de façon régulière avec eux. Il leur fait gagner beaucoup de temps parce qu'en fait, un architecte, il a cet avantage de structurer le projet, d'éviter de faire des rendez-vous pour rien et aussi de se dire, OK, le prix, le délai et les matériaux, qu'est-ce que je mets? Donc ça permet en fait d'avoir un planning, une gestion de projet la plus claire, la plus concise. Donc ce que je disais tout à l'heure, moi, ça me passionne parce qu'en fait, moi, je suis ingénieur travaux. Et en fait, ingénieur, sur ce métier-là, il fonctionne si c'est le plus cadré possible. Oui. Par définition, les travaux, c'est de l'aléa. C'est de l'aléa et en fait on va découvrir des choses quand on fait le curage, quand on ouvre un parquet où on se rend compte qu'il y a de l'aléa. Le travail, notre mission chez EMEA, c'est d'être le chef d'orchestre pour qu'il y ait le moins de fausses notes possible.
Mais ça tient justement aussi sur le choix de ces professionnels avec lesquels vous travaillez, notamment pour obtenir ce très bon taux de satisfaction dans les prix. Dans les délais. Les délais, en ce moment, c'est compliqué.
Alors, les délais, c'est plutôt la phase amont qui est la phase conception et la phase planning. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous avez très peu d'entrepreneurs qui, par eux-mêmes, vont vous faire un planning de chantier. Bah, typiquement, chez EMEA, c'est l'offre de base. On va faire un rétro-planning en disant vous devez aménager le 1er janvier. Donc, ça veut dire que les travaux, ils doivent commencer en septembre. Ça veut dire qu'en fait, en juillet-août, il faut avoir signé, il faut avoir sélectionné les matériaux, il faut avoir fait le premier virement, il faut avoir son prêt qui est validé. Et donc, c'est cette approche-là qui est vraiment clé en main, qui permet de structurer, de sécuriser et d'apporter ce côté beaucoup plus carré qu'on a du mal à trouver avec des entrepreneurs qui sont des formidables artisans, entrepreneurs, mais on leur demande trop de choses. On leur demande d'être bon commercial, on leur demande de faire de l'administratif, on leur demande d'être au courant de toutes les règles qui changent tout le temps.
Là, vous
et EMEA, c'est le partenaire, c'est en fait notre métier, c'est aussi ça.
Jean-Marc.
Et alors, vous rémunérez comment? En pourcentage des travaux ou
comme
forfait,
un architecte. Donc, on a une rémunération sur la phase conception, en fonction de ce qu'il y a besoin. On a une rémunération sur la phase suivi de chantier. Exactement comme l'architecte, ça va entre 7 et 15% en fonction du montant. Et on a un troisième brique de rémunération qui est auprès de nos entrepreneurs, puisqu'on leur met à disposition deux gros services. Donc c'est ce qu'on appelle le Club Pro. Le Club Pro, c'est la gamme complète de services à destination des entrepreneurs. Donc ils ont un logiciel de devis, gestion, facture, CRM, qui gère en fait tout l'administratif lié au chantier. Et on a une version, on a une centrale d'achat, une centrale de référencement. On va négocier auprès des grands comptes, donc des industriels, des fabricants, des conditions négocier, puisque quand nous on achète 1, 2, 3, 5, 10 millions de peintures chaque année, forcément on va avoir un tarif qui est beaucoup plus intéressant que l'entrepreneur seul qui achète 10 000, 5 000, 20 000 euros. Et donc le but, c'est on est capable d'avoir une meilleure qualité, des matériaux plus efficients, plus écologiques. On est aussi passé entreprise à mission chez EMEA. Il y a une vraie valeur.
Et pour avoir ces prix et tout ça, ça suppose que vous ayez un assez gros marché. Vous êtes bien rien qu'à Paris ou sur toute la France?
Alors, mais non, ils s'étendent, Jean-Marc.
c'est une parfaite transition, merci beaucoup. Donc initialement, on était en région parisienne, on avait aussi en région lyonnaise et région bordelaise. Là, on est en train justement d'annoncer qu'on a 7 nouvelles agences. Donc le but, c'est de couvrir le territoire national. Et pour vous donner quelques chiffres, on fait en parallèle, donc aujourd'hui, là, à date, on fait entre 400 et 500 chantiers que l'on suit quotidiennement. Et le panier moyen de chez EMEA, c'est 50 000 euros. Donc ça permet de donner, enfin on n'est pas en train de faire une petite chasse d'eau, le but c'est vraiment, ce sont des projets complets qui durent entre 2 et 3 mois avec toute la structure derrière.
Et vous avez besoin de monde d'ailleurs.
Et on a besoin de monde.
Combien de personnes ?
Et on recrute, là, d'ici la fin de l'année prochaine, on aura dépassé les 120-130 personnes, donc quasiment 40-50 personnes.
Pour alimenter les nouvelles agences et la plateforme.
Pour alimenter les agences, la plateforme, la technologie, être capable vraiment de faire la meilleure solution et comment on s'assure de notre place de leader sur ce marché-là qui est en pleine expansion et comment j'allie le beau, le confort et la satisfaction.
Voilà, mais Paris réussit pour vous, Mathieu.
Non, il reste encore plein de choses à faire, donc c'est le bon moment de nous rejoindre. Et l'avenir va être radieux. Il y a plein de sujets énergétiques, de confort, donc on est très content.
Merci beaucoup d'être venu nous voir, Mathieu Burin, fondateur d'EMEA dans 60 minutes business. Tout de suite, on accueille Pierre Kupferman.
BFM Business, 60 minutes business, le top 3 du web.
Le top 3 du web et on commence avec les précisions. Pierre Kupferman, précision apportée ce matin par la Première Ministre au sujet du dispositif d'aide aux automobilistes qui succédera au ristourne.
Oui, Elisabeth Borne a précisé le public ciblé, cette indemnité carburant travailleur, bénéficiera aux ménages se situant dans les 5 premiers déciles de revenus. Ils bénéficieront d'un versement dès le début de l'année. Est-ce que vous savez à combien s'élèvera cette aide, Jean-Marc ?
Non, d'autant plus que je ne suis pas vraiment concerné, je voyage par la RATP.
Eh bien, sachez que Elisabeth Borne non plus ne sait pas.
Elle voyage par la RATP aussi, non. Elle a même été présidente de la RATP.
Vous avez quand même noté que les retraités n'étaient pas concernés par ailleurs, je vous signale.
Donc, alors passera à autre chose.
Donc, je cite la Première Ministre, je vous dis elle ne sait pas parce qu'elle nous explique qu'on travaille encore sur le barème prévu avec la volonté d'aider significativement ceux qui effectuent un trajet long pour aller au travail. Il va falloir dire aussi patient pour avoir plus de détails sur les futures aides aux entreprises confrontées, elles aussi, à l'envolée des prix du gaz et de l'électricité.
Le numéro 2 de votre top 3 du web, c'est cet article sur l'avenir de Twitter, article de Raphaël Grably, Pierre.
Oui, avec cette question, Twitter peut-il disparaître à cause d'Elon Musk ? Alors, d'après vous, Jean-Marc, quelle est la réponse ?
Oui. Je pense que Twitter peut perdre effectivement un certain nombre de ses abonnés et donc perdre de son intérêt. Il peut y avoir une sorte de bank run sur Twitter. Vous savez, des gens qui fuient, qui s'en vont et qui vident complètement la coquille de sa pertinence.
Alors, la réponse de Raphaël est d'ordre plus technique, on va dire. Hein. Donc, oui. Il nous explique que pour le moment, les problèmes rencontrés par Twitter sont liés à des critiques de la gouvernance d'Elon Musk, donc avec des départs effectivement de Twittos, mais pas de problème technique réelle qui serait consécutif au départ de salariés. Donc pas de quoi obliger Twitter à fermer boutique pour des raisons techniques immédiatement. Sauf que Raphaël nous explique que il y a 3 risques importants à prendre au sérieux. Des pannes à répétition que les salariés restants ne parviendraient pas à résoudre. La pression légale face à l'absence de services juridiques ou de modération. Et puis des piratages qui serait facilité
sur certains comptes.
Qui rattache facilité par le manque de spécialistes de cybersécurité.
Oui, je crois qu'une entreprise, il ne faut pas se faire d'illusions. À la fin des fins, s'il n'y a pas de demande, elle disparaît. Aussi efficace soit-elle sur le plan technique, l'ultime juge de paix, c'est la demande.
Et puis cette alerte lancée par RTE, Pierre.
Oui, risque élevé de tension sur le réseau électrique en janvier, nous dit le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Alors je finis avec cette petite question, Jean-Marc. Est-ce que cette alerte est liée à des prévisions météo que viendrait de recevoir RTE ?
Eh bien, non, on en a parlé avec Mathieu.
Mathieu nous a donné une réponse.
Vous avez déjà prévenu, mais on avait noté qu'il pleuvait. Enfin, tout le monde est content. La nature est au rendez-vous, la nature nous aime.
Non, en fait, mais il y a quand même un problème, c'est le redémarrage des réacteurs nucléaires d'EDF qui sont à l'arrêt.
Et c'est pas la météo, ça.
Et en fait, c'est pas la météo. Non, mais c'est pas la météo. Ce que nous dit RTE, c'est que même en cas de froid modéré en janvier, il y a désormais un risque de tension élevé.
Et c'était le début de cette émission, de ma présence. On va conclure de la même façon, acheter un pull.
Voilà, il en revient toujours au même. Merci beaucoup messieurs, passez un très bon week-end tous les deux. Pierre Kupferman, Jean-Marc Daniel, on se voit
lundi.
Lundi à midi, tout à fait, dans un instant. BFM avec vous.
BFM Business, l'info éco.
Bonjour à tous. Il y a un risque élevé de tension sur le réseau électrique en janvier prochain, met en garde RTE. Le gestionnaire du réseau électrique vient d'actualiser ses prévisions. Conséquences du redémarrage tardif de certains réacteurs nucléaires. Les vagues de froid cet hiver seront déterminantes. Pour le moment, notre consommation d'électricité est à la baisse, moins 6% par rapport à l'avant-crise. Justement, pour le financement de la maintenance du parc nucléaire, EDF signe avec Crédit Agricole un prêt bilatéral d'1 milliard d'euros, une première mondiale, selon le communiqué des deux groupes. L'aide ciblée pour les carburants, qui prendra le relais des 10 centimes de rabais à la pompe, sera bien une aide pour les travailleurs les plus modestes. Un ménage sur deux devrait en bénéficier versement à partir de janvier prochain, annonce la première ministre Elisabeth Borne dans le quotidien Les Échos. Conséquence des hausses des prix des carburants, Total Energy va bien payer des impôts sur les sociétés l'an prochain. Ce n'était pas arrivé depuis 4 ans. Le PDG Patrick Pouyanné le confirme parce que cette année, les raffineries françaises sont devenues rentables. Face à la hausse des coûts de l'énergie, la SNCF, elle va augmenter ses tarifs de 5% pour les voyages en TGV à partir du 10 janvier prochain, mais garantit toutefois certains prix réduits. 889 362, c'est le nombre d'entreprises qui ont vu le jour en France depuis le début de l'année selon l'INSEE, et c'est un chiffre légèrement supérieur à fin octobre 2021. Depuis 5 mois consécutifs, désormais, le nombre d'entreprises créées progresse, plus 1,7% en octobre par rapport au mois de septembre. Le Parlement adopte définitivement la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Le texte prévoit notamment une modulation de l'indemnisation selon la conjoncture économique. Elle devrait être mise en œuvre à partir de l'an prochain. Tous les secteurs d'activité recrutent, c'est ce qui ressort du baromètre Adecco, publié chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Selon le groupe d'intérim franco-suisse, au troisième trimestre, 3,5 millions d'offres d'emploi ont été déposées par les entreprises, un chiffre en hausse de 32% par rapport à l'année dernière. Un secteur en particulier recrute cette année, c'est le bâtiment. Journée spéciale sur BFM Business. À l'occasion des 24 heures du bâtiment, ne manquez pas l'interview à 18h15 de Moussa Camara, le fondateur de l'association Les Déterminés. Les salariés allemands de la métallurgie vont voir leur salaire augmenter après la réussite du dialogue social outre-Rhin. Le patronat et les syndicats ont annoncé cette nuit un accord sur des hausses de salaire de 8,5%. Un accord pour près de 4 millions d'employés dans l'électro-métallurgie. Après plusieurs semaines de négociations par le puissant syndicat IG Metall. Et puis le groupe Canal+ est entré en négociation exclusive pour le rachat d'OCS. Orange souhaite en effet céder sa filiale de TV ainsi que son studio de cinéma. La transaction pourrait se conclure au premier semestre prochain et la filiale de Vivendi fait figure de favori à la reprise selon une information Variety et des Échos. Le CAC à la mi-journée, il est dans le vert, plus 1% à 6650 points à la mi-journée. Journée pour le CAC 40, midi 35, la suite de 60 minutes business, BFM Business avec vous.
Merci Thomas Schnell.
Votre rendez-vous avec la Fédération française du bâtiment, la FFB, à vos côtés au quotidien.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous et Lorraine, on commence par ce thème aujourd'hui, les risques pénaux encourus par les patrons et les cadres. Et oui, c'est un sujet pas très rigolo pour finir la semaine, mais néanmoins c'est un sujet sur lequel vous nous écrivez, vous nous sollicitez, notamment quelle est la responsabilité pénale d'un dirigeant, d'une dirigeante dans les cas de harcèlement, harcèlement moral mais aussi harcèlement sexuel par exemple. Notre expert pour y répondre, c'est un petit nouveau ce midi, c'est Pierre-Philippe Boutron-Marmion. Bonjour Pierre-Philippe.
Bonjour Lorraine, bonjour Sandra.
Merci d'être avec nous, vous êtes avocat pénaliste spécialiste des risques pénaux auxquels sont exposés les patrons, les patronnes. Et on a déjà traité ce sujet, Sandra, hein, sous l'angle social, sous l'angle du droit du travail, pour le dire un peu vite. Avec vous, on zoome sur l'angle pénal. Alors première question, très simplement. Un dirigeant, une dirigeante qui n'aurait pas pris des mesures nécessaires suite à un signalement de harcèlement, par exemple moral, au travail dans son entreprise par l'un de ses salariés, ce dirigeant, cette dirigeante pourrait-il être poursuivi et pourquoi ?
Alors oui, bien évidemment que ce dirigeant pourrait être poursuivi. D'abord, on va exclure la question du dirigeant qui serait lui-même harceleur et donc poursuivi pour harcèlement moral. On va être vraiment sur cette question de si je n'ai pas fait, si j'ai mal fait ou si j'ai pas fait suffisamment. La réponse pénale, elle peut être de deux ordres. D'abord, la complicité de harcèlement moral et puis, plus spécifiquement, dans des cas un peu particuliers, évidemment, on peut envisager aussi l'omission de porter secours. Ce sont deux infractions qu'on pourrait envisager à ce titre.
Cela entraîne quel type de sanctions ? Quelles sont les peines encourues ?
Alors, la complicité de harcèlement moral, c'est les mêmes peines que le harcèlement moral. Donc, c'est 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. Et l'omission de porter secours, c'est 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende.
Alors, question quand même pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui sont un peu interpellés par le sujet. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, ce sont des cas, des situations que vous traitez beaucoup ? Est-ce que vous les traitez de plus en plus ? Je pense au mouvement MeToo, par exemple. Est-ce que ça a des conséquences dans votre quotidien d'avocat pénaliste ?
Il est évident que la conjoncture actuelle, le fait que le thème du harcèlement moral est de plus en plus mis en avant, y compris dans les médias, fait qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence de la part des entreprises d'un besoin d'accompagnement sur ces sujets-là, c'est évident. Il y a deux façons d'accompagner en tant qu'avocat pénaliste. Il y a dans la prévention du risque pénal et puis, évidemment, quand vous êtes poursuivi. Donc oui, on est confronté de plus en plus à des demandes sur ce sujet-là et on tente d'y répondre le mieux possible.
Ça devient un vrai sujet d'inquiétude et de... Les dirigeants sont de plus en plus concernés, ils viennent vous voir de plus en plus pour ça.
Absolument, parce que faut être clair, d'abord la santé et la sécurité au travail, c'est un enjeu absolu pour une entreprise. Ensuite, aujourd'hui, si on regarde un petit peu la conjoncture économique, on voit bien qu'il y a des démissions en masse, on voit bien qu'il y a des problématiques de recrutement, et l'image d'une entreprise, l'attrait de l'entreprise passe aussi par le traitement de ces situations, l'évitement évidemment absolu de ces situations, mais c'est un enjeu d'image et il y a un risque réputationnel autour de ces questions-là qui est très important et que les entreprises dont les entreprises ont pleinement conscience. Donc c'est vrai qu'on est amené à être consulté sur ces questions-là. Il y a aussi un point, c'est que... À tort ou à raison, mais parfois il y a des situations où le harcèlement moral est invoqué alors qu'il ne trouve aucun fondement et le chef d'entreprise doit savoir comment faire la part des choses, comment traiter la situation. Parfois, c'est vrai, ça arrive et sans choquer personne, il faut reconnaître qu'on est confronté à des sujets de harcèlement moral qui n'ont aucun fondement, mais qui sont... porté à des fins de négocier mieux une sortie. Et donc la difficulté pour un chef d'entreprise, c'est de faire la part des choses entre la réalité d'un harcèlement moral avéré et sur lesquels il portera peut-être demain une responsabilité s'il ne fait rien, et les situations qui sont... je dirais, construite de toutes pièces.
On va être très concret et au service de nos auditeurs, de téléspectateurs, avec voilà, une question anonymisée, si je puis dire. Je suis dirigeant d'entreprise et des rumeurs, on parlait de risque réputationnel, des rumeurs évoquent un harcèlement moral entre deux salariés identifiés chez moi, dans mon entreprise. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? Doit-il agir ou au contraire attendre que les choses se précisent ou que les rumeurs se tassent? Qu'est-ce que l'avocat que vous êtes peut conseiller?
La réponse est claire, l'option de ne pas agir n'existe pas. Vous devez impérativement agir. Un signal faible est un signal. Vous devez engager un certain nombre d'actions. Évidemment, suivant la taille de votre entreprise, vous pourrez d'abord entendre les personnes, vous aurez à mener une enquête interne, soit avec des acteurs extérieurs, donc des cabinets d'avocats qui mènent des enquêtes internes, des tiers qui le font, ou au sein de votre entreprise, mais vous devez absolument réagir, même, encore une fois, j'insiste, même à un signal faible, voire très faible, voire peut-être totalement infondé, mais vous devez réagir.
Mais justement, l'absence de signalement, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon entreprise pour prévenir les risques de situations de harcèlement moral, par exemple?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, et c'est le constat de la pratique, les entreprises ont pris conscience de l'importance d'anticiper le risque en entreprise, sur tout un tas de sujets, en particulier celui du harcèlement moral ou sexuel. Maintenant, ce que je recommande, nous, dans nos consultations, évidemment, c'est de ne pas faire des choses cosmétiques. C'est-à-dire qu'il faut être concret, répondre à l'obligation légale d'informer les salariés des conséquences du harcèlement moral, c'est très bien, mais c'est mis sur du papier glacé, transmis aux salariés, ça ne leur parle pas. Nous, ce qu'on constate chez nos clients, et ça c'est un phénomène de plus en plus important, venez, vous, avocats dans nos entreprises, ou d'autres praticiens aussi, parlez concret à nos salariés, à nos relais hiérarchiques dans ces entreprises, venez expliquer les conséquences d'une procédure pour harcèlement moral. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le texte? Si je vous fais lire le texte, vous allez tous comprendre de quoi il s'agit, mais la traduction concrète dans la vie réelle, vous ne l'aurez pas. Et je pense qu'aujourd'hui, ce besoin de formation est devenu indispensable pour, comme vecteur, par exemple, de prévention du risque.
Restez avec nous, Pierre-Philippe. On va rejoindre notre confrère Mehdi Randani. Bonjour Mehdi. Vous nous entendez ?
Oui,
vous êtes rédacteur en chef de LinkedIn Actualité. On est avec vous parce que c'est vendredi. On a un sondage avec vous, pardon. Une question que vous avez posée à votre communauté. On change de sujet. On parle de la COP27 avec vous. Mais on reviendra avec Pierre-Philippe sur la responsabilité pénale. Vous verrez juste après. Alors, Mehdi, quelle était la question cette semaine ?
Oui, en effet. Alors que la COP27 s'achève ce vendredi en Égypte, nous avons demandé aux membres de LinkedIn s'il fallait aller jusqu'à changer de travail pour sauver la planète. tandis que 20% des répondants pensent que c'est indispensable, 68% estiment qu'il est possible d'agir pour l'environnement à son niveau, au sein de son entreprise. Donc vraiment, une large majorité estime que des petites actions quotidiennes au travail sont suffisantes pour prendre soin de l'environnement. C'est ce que nous dit Christelle, formatrice, qui liste toute une série de mesures privilégier les modes de transport les moins polluants pour ce qu'on travaille, éteindre ses appareils électroniques. Si chacun fait un peu, nous dit-elle, nous allons gagner tous. Des initiatives qui sont aussi de la responsabilité des directions, explique Bader, chef d'entreprise. Dans sa société d'informatique, il encourage par exemple le télétravail afin de limiter les émissions de CO2 liées aux déplacements professionnels. Toutefois, pour un répondant sur 5, 20%, ces actions du quotidien ne suffisent pas et un changement plus radical doit s'opérer. C'est ce que nous dit par exemple Véronique, qui est technicienne de maintenance et qui a changé d'emploi pour être en accord avec ses valeurs. Elle travaillait auparavant pour une entreprise de recyclage dont certaines pratiques étaient très polluantes. Et elle nous dit qu'elle a changé de travail pour moitié de salaire, mais que sa tranquillité n'a pas de prix. Naomi travaille, elle, dans le BTP, a rejoint récemment une entreprise de l'économie circulaire parce qu'elle ne supportait plus d'avoir un impact carbone si important dans sa vie professionnelle.
Oui, mais Mehdi, ce n'est pas toujours facile de changer de travail, comme Véronique et Naomi vont nous parler.
Évidemment, trouver un emploi vert, ce n'est pas toujours facile, notamment parce que les opportunités professionnelles ne sont pas si nombreuses ou alors parce qu'elles demandent des compétences très spécifiques. À peine 25% des entreprises cotées dans le monde sont alignées avec la trajectoire des 1,5 degrés de l'accord de Paris, rappelle ainsi Vincent, chef d'entreprise. D'ailleurs, pour cette raison que beaucoup de personnes sensibles à la question environnementale se tournent vers l'entrepreneuriat. C'est ce qu'a fait Christelle en se lançant dans la décoration d'intérieur éco-responsable après un burn-out.
Merci beaucoup Mehdi, notre confrère de la rédaction LinkedIn Actualité. Pierre-Philippe, on va vous faire réagir tout de même. On parlait de responsabilité pénale des dirigeants, des dirigeantes. On parle de la COP27 avec Mehdi. Évidemment, la loi climat, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement si dans la loi climat, il y a un délit par exemple, si mon entreprise pollue et n'est pas responsable, est-ce que je peux en tant que dirigeante, dirigeante, être inquiétée et jusqu'à condamnée pénalement?
Oui, clairement, la loi climat a voulu être un marqueur fort de nouvelles prises de position, y compris pénales, sur le sujet de l'environnement. Ce qu'on peut relever, la loi climat, elle est importante, il y a beaucoup de choses à en dire, mais très synthétiquement, ce qu'on peut relever, c'est qu'il y a cette notion d'écocide qui a été inclue, qui consiste à dire qu'on pollue intentionnellement, et donc si on pollue intentionnellement et que cette intentionnalité est caractérisée, on peut encourir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. C'est un marqueur fort. Aujourd'hui, on n'a évidemment aucun recul sur cette question-là, puisque c'est un délit tout neuf, si je puis dire. Mais voilà, cette responsabilité pénale est parfaitement existante, et d'ailleurs, si je peux ajouter, la loi climat a permis de faire un référé pénal, ce qui est quelque chose de très nouveau et qui permet à toute personne victime d'une question liée à l'environnement de saisir le parquet sur cette question-là et donc avec les conséquences pénales pour les dirigeants et les entreprises à ce titre-là.
On y reviendra sur ce sujet, Lorraine.
Mais oui, écrivez-nous, posez-nous des questions. On fera
travailler nos avocats. Merci Pierre-Philippe Boutron-Marmion d'être venu nous voir aujourd'hui.
Merci à vous.
Allez, dans un instant, BFM avec vous recrute, à tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
24 heures du bâtiment aujourd'hui, porte de Versailles à Paris. BFM Business vous parle de bâtiment toute la journée. Et justement, Lorraine, on va parler de Wedge aujourd'hui avec Assad Mouheb qui est avec nous.
Oui, c'est le patron de Wedge Institute. Avec vous, Assad, on va parler du bâtiment, mais encore plus important, de la formation. Parce que pour continuer à alimenter cette industrie qui recrute, il faut former les gens. Alors, pitchez-nous vos instituts.
Tout à fait. Donc, Wedge Institute, ce sont des écoles de formation, en fait, qui sont basées partout en France. Vous les retrouverez dans les 10 villes étudiantes de France. Nous formons des stagiaires, en fait, qu'ils soient demandeurs d'emploi en reconversion professionnelle ou des étudiants qui souhaitent suivre un parcours par alternance dans les métiers de la transition énergétique, entre autres le DPE que tout le monde connaît aujourd'hui, l'efficacité énergétique.
ABCDE.
Exactement, donc l'efficacité énergétique, on a l'audit énergétique qui va rentrer en vigueur au 1er avril 2023, mais aussi tout le cursus lié à la réglementation thermique 2020 qui est un vaste sujet.
Combien de pourcentage de retour ou d'arrivée à l'emploi à l'issue de vos formations?
Alors, c'est exceptionnel. Depuis 5 ans maintenant, on existe depuis 2008, mais depuis 5 ans maintenant, de manière régulière, on est sur un chiffre extraordinaire de 100% de retour à l'emploi post-formation.
Vous avez 12 postes ouverts là actuellement?
Exactement. En réalité, on en a beaucoup plus. Mais si vous voulez, ce sont ces 12 postes, une fois qu'ils seront pourvus, en fait, ils vont déclencher d'autres postes. Donc, en attendant, on en a besoin de 12 afin de les mettre sur pied, les rendre opérationnels, les former, éventuellement les certifier dans certains cas. Et ces postes-là, une fois opérationnels, vont en engendrer d'autres, beaucoup d'autres. On parle d'ici 2025, peut-être même d'une trentaine de postes.
Alors, soyons très concrets. Où est-ce que vous recrutez? Dans quelle ville? Vous nous parlez des villes étudiantes. Et quels sont les quelques postes clés, les plus urgents à pourvoir dans ces instituts, dans les villes que vous allez nous dire?
Les plus urgents sont les postes de formateurs en diagnostic immobilier. Plus particulièrement l'audit énergétique et le diagnostic de performance énergétique, mais aussi des formateurs dans les métiers liés à la réglementation thermique 2020. Et on a aussi des postes d'assistants, de gestionnaires formation. Vous savez, ces personnes-là qui vont suivre le parcours de formation du stagiaire, faire son bilan de compétences et le réinsérer sur le marché de l'emploi. Ce sont vraiment ces postes-là qui sont en tension chez nous aujourd'hui.
Des villes en tension, c'est particulièrement compliqué de recruter ces profils?
Oui, c'est très compliqué. On les recherche dans le Grand Est. On les recherche sur Paris et Lyon en priorité. Mais bien entendu, toutes les villes sont ouvertes. Mais ce sont ces villes-là où on est le plus en tension.
Comment on postule, Lorraine?
Alors, ça se passe à l'adresse qui s'affiche à l'écran, contact@wedge-formation.com. Vous allez retrouver aussi quelques-uns des postes à pourvoir sur le site des Wedge Institute, il faudrait le dire comme ça. Hein. On a parlé de formateurs en diagnostic immobilier, de formateurs en efficacité énergétique, des conseillers en formation de tout type. Et puis, il faut le dire, ça paye pas mal quand même. Les métiers de la formation se portent bien, ils recrutent. Voilà, chez Wedge, c'est un des endroits où vous pouvez aller faire la formation.
Assad, vous restez avec nous, hein, évidemment, jusqu'à la fin de cette émission. Votre deuxième recruteur, Lorraine, c'est Thomas Deck.
Oui, le fondateur de Deck et Donohue. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Thomas, merci d'être avec nous. Avec vous, on change complètement d'univers. On parlait du Grand Est à l'instant avec Assad, et ça tombe bien parce que vous êtes vous-même du Grand Est.
Exactement, alsacien.
Alsacien d'origine et brasseur.
Exactement. Donc on a créé une brasserie artisanale indépendante en 2014 à Montreuil. On a déménagé... Pas du tout en Alsace. On a déménagé depuis à Bonneuil-sur-Marne et aujourd'hui, on est une équipe de 18 personnes et on essaye de brasser une large gamme de bières de goût et de sens.
Alors, vous avez besoin de quel type de poste? Il y a 6 postes ouverts chez vous actuellement.
6 postes ouverts. Quel type de poste? Effectivement, on est en plein développement. Aujourd'hui, les postes sur lesquels on recrute, c'est principalement des postes de développement, donc des postes commerciaux, marketing, à la fois sur les cafés, hôtels, restaurants et aussi en grande distribution.
Vous êtes sur un secteur qui se porte pas mal. Alors malheureusement, on a beaucoup parlé d'Heineken et de Strasbourg cette semaine parce que Heineken ferme une usine qui était autrefois Cronenbourg, si je dis pas de bêtises. Donc c'est tout un patrimoine historique qui s'en va. Néanmoins, il y a beaucoup de brasseries artisanales. On fait du bio, c'est ce que vous faites, le bio. Pourquoi ce parti pris?
Je pense que c'est important de contribuer dans la mesure de ce qu'on peut faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, faire le choix du bio, ça permet d'avoir un impact direct sur des cultures. Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur. On a mis en place cette année une filière de malt ultra locale où on travaille avec des agriculteurs de Seine-et-Marne et on va avoir de l'orge qui va venir, de l'orge bio qui a été cultivée à moins de 50 km de notre brasserie.
Alors moins de 50 km, c'est là aussi où il faut vivre pour aller travailler dans votre brasserie. Est-ce qu'il faut être à Bonneuil-sur-Marne? Est-ce que vos recrutements sont très géolocalisés?
Alors, pour les postes en brassage ou en conditionnement, c'est effectivement, il faut impérativement être présent à la brasserie. Après, pour les postes de développement, que ce soit marketing ou commercial, le télétravail est possible et il y a beaucoup de présence chez nos clients.
Deux jours par semaine, en ce qui vous concerne. Assad, vous avez du télétravail, vous, pour les formateurs?
Oui, tout à fait. Bon, les formateurs, il faut savoir qu'ils donnent aussi des formations qu'on appelle en visio. Donc, ce sont des cycles à distance qui sont tutorés par le formateur. Donc, ces formateurs-là exercent, bien entendu, en télétravail. Il est un peu moins possible, malheureusement, pour les conseillers en formation d'exercer du télétravail, car ils reçoivent les candidats destinés à s'entretenir avec. Et c'est vrai que ces candidats-là sont un peu réfractaires, en fait, à de la visio. Donc, on va dire que le poste d'assistant, en fait, administratif, dans ce domaine-là, c'est un peu plus compliqué, le télétravail.
Ce qui est compliqué, les télétravail, notamment chez vous, Thomas Deck, c'est pour les postes autour de l'atelier, de la brasserie à proprement parler. On sait notamment au niveau des opérateurs, des opératrices, c'est compliqué de recruter. Vous payez, officiellement, vous dites que vous payez 20% de plus que le SMIC sur les postes les plus bas chez vous. Qu'est-ce qui vous permet, en tant que patron, de payer mieux dans une entreprise qui est assez jeune, hein, 2014.
Oui. En fait, on cherche à faire des produits de qualité en utilisant des ingrédients de qualité. Nos produits sont plus chers qu'une bière lambda qu'on peut trouver dans le commerce. Et du coup, ça me semble légitime que notre équipe soit aussi mieux rétribuée. Donc effectivement, on a un salaire minimum horaire qui est 20% supérieur au SMIC. Et on a mis en place en 2022 un plan d'intéressement pour toute l'équipe.
Comment on postule, Lorraine ? Alors, intérêt pour un poste de responsable de vente en GMS, des chefs de produits, des chefs de secteur, des commerciaux, évidemment, tout le monde en cherche, des opérateurs, on vient d'en parler, mais aussi un poste de community manager. Tout ça, ça se passe directement à l'adresse de Thomas qui s'affiche à l'écran. C'est thomas@dec-donohu.com. Vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des postes à pourvoir sur la page LinkedIn de DEC et DonoHu. Et pour conclure, où est-ce qu'on vous trouve ? Où est-ce qu'on peut acheter vos bières ?
Alors, on les trouve dans 400 bars et restaurants en Ile-de-France et dans des magasins Monoprix et Franprix partout en France.
Voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup Thomas Deck d'être venu nous voir. Merci à Hassan Moueb aussi d'être venu nous voir pour Wedge Institute. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site. Lundi, on parlera droit du travail, Laurent.
Oui, et on se posera la question en rapport avec la Coupe du Monde. Si vous avez le droit de sécher le travail ou de demander des congés payés, est-ce que le droit du travail vous permet de faire ça si vous êtes un gros fan ou une grosse fan de foot ?
Voilà, ce sera lundi à 12h30. En attendant, passez une très bonne journée, un très bon week-end sur BFM Business.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.